Bonjour à tous, en ce mercredi 8 mars, c'est le journal des bonnes nouvelles qui revient. Bonjour Alice.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, on va parler de choses diverses qui vont vous remettre de bonne humeur, comme à notre habitude. Alors on va commencer avec un questionnement qui agite toute la sphère politique à un niveau international, ce sont les ananas sur la pizza. Ensuite on reviendra sur quelque chose qui manifestement inquiète beaucoup moins les politiques, c'est Marine Le Pen. On continuera, tant qu'à parler des Le Pen, à parler de vieux chiens, ça sera l'animal mignon du jour. Ensuite on reviendra sur Noël qui nous manque déjà en ce début du mois de mars. On ira au Canada pour rencontrer des super-héros et on descendra ensuite aux États-Unis dans l'Ohio pour rencontrer à nouveau un héros des temps modernes, un chauffeur de bus. Pour terminer cet épisode, Alice nous parlera du Zimbabwe. Et je vous proposerai un petit bonus spécial agrégatif qui vous parle d'astrologie et de François Fillon.
On va faire un petit tour par l'Islande où la politique crée scandale sur scandale et dont l'un des derniers en date est le suivant. Bannir ou ne pas bannir l'ananas sur la pizza. Eh oui, les débats en France et les débats en Islande ne sont pas tout à fait du même calibre. Et toi, Nicolas, critique culinaire de Transistor, qu'est-ce qu'on en pense de l'ananas sur la pizza ?
Moi, j'aime beaucoup. Sans vouloir faire de la pub, je tiens à préciser que Domino's propose une hawaïenne poulet, donc poulet à la place du jambon, que je trouve vraiment excellente.
Très bien. Donc du coup, chers auditeurs, si vous aimez les pizzas hawaïennes, vous savez où aller maintenant. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est le président islandais qui a lancé la polémique. En effet, Gunni Johannesson, ancien professeur d'histoire, qui jouit d'une cote de popularité exceptionnelle, c'est-à-dire quand même 81,4%, est un personnage atypique. Élu en juin 2016, il a été le premier président à se joindre à une gay pride, il a refusé d'augmenter son salaire et il est proche de ses électeurs. Vu d'ici, on croirait un peu à une utopie, et peut-être que certains feraient bien de s'en inspirer. C'est lors d'une intervention dans une école au nord de l'île qu'il a été interrogé sur l'ananas comme garniture de pizza. Non content d'exprimer son mépris pour le fruit, il a ajouté qu'il bannirait l'ananas comme garniture de pizza s'il avait le pouvoir de faire passer une loi. Et alors là, c'est le drame. Internet foudrage s'est déchaîné face à de tels propos. Alors qu'on le sait tous, sans vouloir se l'avouer, désolé Nicolas, mais l'ananas sur la pizza, c'est quand même pas non plus... Enfin, c'est pas très bon, quoi. D'ailleurs, tout est incohérent avec ces pizzas. Le goût déjà, mais son histoire surtout. Est-ce que vous saviez qu'elle s'appelle hawaïenne, mais qu'en fait elle a été inventée au Canada ? Merci le Canada, hein, franchement. Enfin bon, bref. Gunni Johannesson a toutefois réussi à se dépatouiller de la polémique en expliquant qu'il était très heureux de ne pas avoir ce genre de pouvoir et que malgré sa haine profonde pour l'ananas sur la pizza, il ne voudrait pas être ce genre de président. Il a d'ailleurs donné ses propres conseils culinaires. Pour la pizza, il recommande les fruits de mer. Et c'est ainsi, mes chers enfants, qu'une nouvelle polémique fut lancée.
Alors on va continuer sur les polémiques, histoire d'exorciser un peu ça et faire un reste de journal un peu plus détendu. La bonne nouvelle de la semaine, c'est évidemment la levée de l'immunité de Marine Le Pen dans une affaire de diffusion d'images violentes sur les réseaux sociaux. Donc vous allez tout de suite crier à la partialité politique de Transistor, mais il est important, et c'est une bonne nouvelle, de voir que les politiques ne sont pas complètement exempts de toute responsabilité dans l'usage des réseaux sociaux. Donc en décembre 2015, la présidente du Front National avait posté des photos de Daesh, d'actions de Daesh, des photos extrêmement violentes sur son compte Twitter, de manière à réfuter l'accusation de Jean-Jacques Bourdin qui avait comparé le Front National à l'organisation soi-disant État islamique. Et le Parlement européen a approuvé jeudi 2 mars la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, qui était demandée par le parquet de Nanterre. Et même si cette levée ne concerne pas d'autres affaires que celle de la diffusion d'images violentes, on pourrait penser par exemple à l'affaire des emplois fictifs du Front National au Parlement européen. Mais c'est déjà une bonne nouvelle quand on sait que le Front National, tout en encourageant l'euroscepticisme et en critiquant à tout va le système de l'Union européenne, profite quand même de manière éhontée des avantages que leur offrent les sièges de députés au Parlement européen.
Yes, I see. Good news, everyone!
Et donc on va enchaîner tout de suite avec notre rubrique Animaux Mignons, qui, je suis désolée Nicolas, encore une fois, mais n'a rien à voir avec les Le Pen. Et cette fois, pas de rhinocéros noir ni de récifs coralliens. Les chiens. Bah oui, c'est bien les chiens. Et ben si vous aimez ces animaux, souvent surnommés les meilleurs amis de l'homme, vous aimerez bien cette nouvelle. Good news everyone, comme on dit par ici. Parce que de plus en plus de gens adoptent des vieux chiens qui ont notamment des problèmes de santé assez lourds. C'est le Washington Post qui nous raconte qu'un refuge dédié aux bergers allemands a posté une photo d'un vieux berger allemand, cône et blessures à la hanche inclus, sans chercher à masquer le travail qui attendait la nouvelle famille du chien nommé Elmo. C'est cette photo où le chien a l'air abattu qui a séduit Steve Frost. Il explique qu'il a immédiatement été attendri par le chien et que sa décision de l'adopter a été au moins aussi rapide. Le coup de foudre en somme. Cette histoire reflète un mouvement qui se généralise aux États-Unis parce qu'on a de plus en plus de refuges qui utilisent les grands moyens pour promouvoir leurs chiens âgés et leur donner toutes les chances d'être adoptés. Et le plus cool dans tout ça, c'est que ça marche. L'article du Washington Post regorge de témoignages et d'exemples, dont celui de Dante, qui a dû être opéré d'urgence et dont un œil a été enlevé au cours de la chirurgie avant son adoption. Et je précise évidemment que le chien a par la suite été adopté. Ou encore d'un chien qui n'a survécu qu'une semaine à cause de ses nombreux problèmes de santé. Mais cette semaine-là, il a quand même été choyé par ses nouveaux maîtres qui tenaient à lui offrir une fin de vie marquée par l'affection. Une initiative qui paie, un petit peu douce amère, mais qui nous enthousiasme quand même.
Alors pour ceux qui, comme moi, ne sont pas spécialement attendris par les chiens, même si je rappelle qu'on avait besoin d'un animal mignon pour cet épisode, je vous amène une bonne nouvelle des États-Unis qui concerne cette fois-ci une personne âgée. Donc Monsieur Frank, c'est comme ça qu'il est appelé dans l'article, Monsieur Frank est donc un résident d'un voisinage tranquille aux États-Unis et a reçu des lettres extrêmement menaçantes qui l'enjoignaient d'enlever toutes ses décorations de Noël, de nettoyer son jardin et éventuellement de déménager pour qu'une nouvelle maison puisse être construite à la place de la sienne. Lettre donc signée par soi-disant un ensemble de voisins mécontents qui a brisé le cœur de ce vieil homme qui a vécu toute sa vie dans cette maison. Mais il s'est vite avéré que la lettre n'émanait pas de ses voisins, puisque par solidarité, tout le voisinage a décidé de réinstaller en mars des décorations de Noël, rendant le quartier entièrement illuminé plus de 2 mois après la fête de fin d'année. Alors qu'est-ce que tu penses, toi, Alice, des décorations de Noël en mars ?
Alors, les décorations... Bah déjà, les décorations de Noël, en général, c'est pas trop mon truc. Après, bon, si les gens veulent illuminer leur jardin, c'est leur problème.
Voilà, hein, mais ça, c'est parce que tu n'as plus ton âme d'enfant, Alice.
Tout à fait, je suis déjà blasée.
Les enfants du voisinage ont été interviewés. Et donc, c'est un enfant qui dit aux journalistes, c'est comme un second Noël, c'est le rêve de tous les enfants. Donc, c'est pas seulement une bonne nouvelle pour le vieux monsieur Franck, mais aussi pour tous les enfants du voisinage. Et donc, cet enfant interviewé, on précise dans l'article, il se fait interviewer près d'un panneau Kids Zone, installé par Monsieur Frank, donc témoignage de l'amour et de la joie qui règne dans ce petit voisinage des États-Unis, en tout cas tant que les promoteurs immobiliers ne glissent pas des lettres dans les boîtes aux lettres des personnes âgées.
Et ben du coup moi je vais vous emmener un petit peu au nord, et on enchaîne tout de suite avec la nouvelle la plus canadienne possible. Deux hommes qui entreprennent de faire de bonnes actions, masqués. Un petit peu les Captain Canada en somme. Ces deux hommes ont bien décidé d'en finir avec les petits tracas de la vie quotidienne et de reprendre la bonne humeur en main. C'est masqué qu'ils se sont avancés dans les rues de Halifax, ville de Nouvelle-Écosse, prêts à accomplir la moindre bonne action. C'est d'abord vers la patinoire publique qu'ils se sont dirigés et qu'ils ont entrepris de lacer des chaussures pour le patinage artistique des grands comme des petits. Et ils ont réitéré leur action quelques jours plus tard en distribuant des cookies, du café, à des personnes au hasard dans la rue, comme ça. Donc j'avoue que moi je serais très, très heureux si quelqu'un me proposait des cookies gratuitement, franchement. Et c'est aussi l'avis de George Gilmore, un passant qui s'est vu offrir du café et qui a commenté l'affaire en disant que c'était une initiative vraiment, vraiment gentille. Les deux super-héros du quotidien n'ont pas voulu donner leur nom, et sinon ça enlèverait tout son charme à cette action de super-héros, mais ils ont quand même tenu à expliquer qu'il s'agissait de faire plaisir aux gens dans la vie de tous les jours, et ce malgré la méfiance qu'ils ont d'abord pu rencontrer. Ils souhaitent aussi par leur initiative rendre le monde un petit peu meilleur, et cette initiative elle s'appelle The Pay It Forward, et elle est drôle, et elle nous fait plaisir.
Alors, continuons avec les héros du quotidien, toujours sur le continent américain, dans l'Ohio. C'est un chauffeur de bus qui a sauvé la vie d'une dame, et non pas en conduisant son bus comme on pourrait s'y attendre, mais en s'arrêtant au milieu d'un pont pour sauver la vie de cette femme qui menaçait de se suicider. Donc le chauffeur Damon Hudson se dirigeait vers le centre-ville de Dayton dans l'Ohio et il traversait le pont qui surplombe la rivière Great Miami pour s'arrêter en fait en voyant une femme du mauvais côté de la glissière de sécurité. Il a interpellé la dame, il a tenté de la convaincre de repasser sur la route et il lui a dit voilà tout simplement madame vous avez l'air de passer une mauvaise journée, vous savez, est-ce que je peux vous prendre dans mes bras, enfin, give you a hug en anglais. Et donc, c'est en accompagnant, en restant avec cette personne jusqu'à l'arrivée de la police, que ce chauffeur de bus a donc sauvé la vie de cette dame et a redonné le sourire à un bon nombre d'habitants de la ville. Et on l'espère à vous aussi maintenant qu'on vous en parle dans le journal des bonnes nouvelles.
Donc on va parler d'un sujet un petit peu moins rigolo maintenant, et on va parler du Zimbabwe, et d'une nouvelle qui est carrément excellente à ce niveau-là, qui nous est rapportée par la BBC. Le pays d'Afrique a semble-t-il décidé d'en finir avec les châtiments corporels à l'école et à la maison. Une loi a en effet été rédigée qui interdit les violences faites aux enfants dans le cadre scolaire, mais aussi familial. Alors, on apprend que tout est parti de l'histoire d'une jeune élève et de sa mère, puisque la jeune fille avait été très très sévèrement punie parce qu'elle n'avait pas fait signer son carnet de lecture par ses parents, et donc elle ne pouvait pas prouver qu'elle avait fait ses devoirs. La mère de l'élève, Lina Funga, s'est dit choquée par le traitement réservé à sa fille, puisque en effet elle a été quand même battue à l'aide d'un tuyau en plastique. Et Madame Funga explique que sa fille avait des difficultés à dormir à cause de ses ecchymoses, et elle raconte aussi à la presse qu'elle a pris des photos devant l'ampleur des contusions et autres bleus que sa fille avait, et qu'ensuite elle les a postées dans une conversation WhatsApp qu'elle avait mise en place avec des parents d'élèves. Et les réactions, ça, et c'est aussi ça qui nous fait chaud au cœur, c'est que les réactions ne se sont pas faites attendre, et d'autres parents se sont manifestés et plaints des coups reçus par leurs enfants. Donc l'affaire a fait du bruit, et c'est ainsi qu'elle a mené à cette loi. Le problème avec cette loi, c'est qu'elle divise encore la population, puisque certains parents sont insatisfaits du jugement, tandis que d'autres vont plutôt saluer cette décision qui, selon eux, aurait dû être prise bien plus tôt. Donc pour revenir un petit peu sur le Zimbabwe et les châtiments corporels et globalement l'enfance, bah, effectivement, les châtiments corporels sont encore monnaie courante au Zimbabwe, et ils sont encore acceptés par une grande partie de la population comme étant des punitions traditionnels, qui fonctionnent, etc. Et ils sont pratiqués sans différence entre les enfants et sont assez souvent très violents à tel point qu'il n'est pas rare qu'un enfant revienne couvert de bleu, voire parfois avec des os cassés. Donc la situation des enfants au Zimbabwe est de manière générale défavorable et c'est le Zimbabwe Youth Council qui a mené une étude et qui tire ses conclusions. La violence qui entoure les enfants dans le pays est très très forte et elle peut prendre de nombreuses formes. On a par exemple des mariages de mineurs, de la prostitution de mineurs, du travail des enfants, de l'abus de drogue, etc. Et dans le cas par exemple des mariages ou du travail forcé, les parents sont souvent impliqués et encouragent même ce genre de pratiques. Dans le cas particulier des mariages, on a souvent des mariages qui sont arrangés ou forcés et qui exposent les jeunes mariés à des maladies comme le sida et malheureusement souvent, dans le cas des femmes, au viol marital. Certaines personnes influentes dans différentes régions du pays pointent aussi du doigt un accès extrêmement facile à des produits comme l'alcool ou encore aux drogues dures. Et du coup, ils expliquent aussi que la perte des valeurs fait que la violence faite aux enfants et la violence que les enfants peuvent se faire aussi à eux-mêmes soit encore plus présente. Et il est encore assez courant pour les parents de battre leurs enfants ou, comme je le disais plus tôt, pour les enseignants d'attribuer des châtiments corporels aux élèves parce que c'est vu comme une méthode éducative. Mais par contre, on peut quand même, parce que bon là je vous peins un tableau complètement noir etc, bon c'est un peu dramatique, mais quand même on note que cette pratique recule, et notamment avec la sensibilisation des parents à de nouvelles manières d'éduquer leurs enfants, et c'est ce que Madame Funguas souligne dans son interview. Elle-même, tout comme un nombre croissant de parents, considère que les châtiments corporels ne sont pas du tout adaptés et se tourne plutôt vers le dialogue, qui leur semble très important, ou alors vers des punitions plus adaptées, comme la privation de télé, par exemple. Enfin, c'est l'exemple que Madame Funga prend par rapport à sa fille. On note que même si la loi doit toujours être validée par la Cour constitutionnelle, il y a quand même bon espoir pour qu'elle le soit, parce que même si je mentionnais que des parents étaient insatisfaits par le jugement, beaucoup d'autres se disent ravis et espèrent que ça marque le début d'un changement dans les mentalités. Et effectivement, voilà, cette loi est vue comme le moyen de faire changer les comportements et plus généralement de changer la vision de l'éducation dans le pays.
Alors, avant de clore ce journal des bonnes nouvelles qui, on l'espère, vous a remis de bonne humeur pour toutes les épreuves du mois de mars, qu'elles soient écrites, d'agrégation ou diverses, je propose un petit bonus astrologie. Donc, comme vous le savez, en ce moment, ça ne va pas très fort pour François Fillon, mais nous avons une bonne nouvelle pour lui. Il bénéficie du soutien d'une personnalité influente qui n'est autre qu'Elisabeth Tessier, la fameuse astrologue. Intitulé « François Fillon, ce rêveur éveillé, novateur né à rendez-vous avec Neptune, son idéal ». Un rendez-vous unique dans l'existence de ce poisson ascendant Balance, réservé, pudique, mais amoureux du risque. On connaît son amour des courses automobiles, reflété par la dissonance Soleil-Mars, qui pousse, selon la terminologie freudienne, à, entre guillemets, tuer le père et affronter le destin en se frottant à plus fort que soi. Son ciel l'expose au coup du sort, marqué par le doigt de la fatalité, Uranus au milieu du ciel en carré avec la lune noire. Celle-ci a frappé suite à la funeste nouvelle lune du 28 janvier, assombrie par Soleil-Vénus-Saturne en ce fatal dimanche du 29, deuxième tour des primaires socialistes qui a valu à Manuel Valls d'être écarté brutalement ce même jour du paysage politique français. Alors si on en croit le ciel de François Fillon, la source du « entre guillemets Penelope Gate » se trouverait autour du 6 janvier et aurait des répercussions autour du 20 juin et jusqu'à la fin octobre 2017. Ajoutons que le symbolisme de Neptune est complexe, lié à la fois à la recherche et à la découverte de l'idéal, à une plus grande créativité et sensibilité, mais également à une grande vulnérabilité au scandale et au cabale. Né sous une nouvelle lune, comme souvent les personnages au destin hors du commun, mais relativement mal dans leur peau, la réussite lui était promise. Nouvelle lune, trigone, au milieu du ciel. Tandis que le nœud nord dans le secteur 4 de la nation imprimait à ce destin une orientation et un rôle politique évident, comme l'a déjà prouvé son passé de Premier ministre. Son nœud sud culminant dans son ciel et coïncidant très exactement avec la lune, c'est-à-dire le peuple de la 5ème République, c'est là à coup sûr le signe d'une adéquation profonde et instinctive avec le peuple de France, et cela est renforcé encore par l'angle harmonique de sa Vénus, reflet d'une action bénéfique certaine en faveur de ce dernier. Précisons ici que mes analyses ne comportent aucune note personnelle, aucune préférence politique, elles sont uniquement basées sur les positions planétaires. Des tuiles jalonnent son destin, un aspect natal activé par Jupiter-Pluton en 2017, notamment fin mars, un moment crucial, ça passe ou ça casse. Mais s'il n'a pas jeté le manche après la cognée d'ici là, Dame Chance sera de nouveau à ses côtés, à l'instar de début décembre 2016, et ce, dès la mi-avril, Jupiter trigone Jupiter natal. Or, avec son sextile natal de Mars à l'ascendant, François Fillon est sous des apparences placides, un bagarreur né. Gageons qu'il saura relever le gant du destin. Conclusion, des étoiles complices entre le 9 et la mi-février amèneront l'adhésion de ses pairs, tandis que des énergies cosmiques renforcées dès son prochain anniversaire le 4 mars devraient le porter haut et loin.